Et ce matin, sur les ondes médias, on parle également d'apnée du sommeil. Alors, c'est l'interruption de la respiration pendant le sommeil. L'apnée du sommeil qui peut avoir de nombreuses conséquences cardiovasculaires. Les enfants n'en sont pas épargnés. Alors, pour en parler avec nous ce matin, professeur Ahmed Bennis, bonjour.
Bonjour, meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie.
Très, très heureuse année à vous également. Merci. Alors, vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca, je le rappelle. D'abord, comment peut-on définir donc l'apnée du sommeil?
Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, ça peut toucher 4 à 7% de la population adulte.
D'accord.
En général, on le trouve à 4% chez les hommes et 2% chez les femmes. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil se manifeste par des arrêts répétés, et ce sont des arrêts répétés et incontrôlés de la respiration pendant le sommeil.
D'accord.
Ça va provoquer des éveils et des micro-éveils intermittents. Et ce sont des interruptions de la respiration qui sont la conséquence de la fermeture répétée pendant plus de 10 secondes du conduit aérien, du pharynx, et cela plus de 5 fois par heure. Donc généralement, nous avons un index avec lequel on mesure l'apnée du sommeil, c'est l'index apnée-hypopnée, qui est l'indice d'apnée par heure. Donc généralement, quand ça dépasse 5 par heure. Alors, on a deux types d'apnée. Ouais. On a l'apnée centrale. Mmh. C'est lorsqu'on a un arrêt momentané de la commande respiratoire. Et cette commande respiratoire vient en général du tronc cérébral. Donc ça, c'est l'apnée centrale. Et on a le deuxième type d'apnée, c'est l'apnée obstructive, qui est une obstruction des voies aériennes supérieures durant le sommeil, malgré les mouvements respiratoires persistants. Alors pourquoi on s'intéresse beaucoup à l'apnée du sommeil? Parce que d'un vous l'avez vu, c'est fréquent, ça touche 4 à 7% de la population adulte et ça touche essentiellement les obèses, les diabétiques et ça peut avoir des conséquences sur la santé cardiovasculaire, en particulier sur la tension artérielle, sur le rythme du cœur, sur les artères du cœur. Pourquoi ? Parce qu'à chaque épisode, le taux d'oxygène dans le sang va diminuer. On va avoir de l'hypoxie, ce qui va être enregistré par les centres respiratoires, il va y avoir une création d'épisodes d'éveil, micro-éveil, et ce qui va permettre la réouverture des voies aériennes supérieures. Et la succession de ces épisodes d'hypoxie ou un manque d'oxygène par ces épisodes d'apnée du sommeil au cours des nuits va provoquer une détérioration de la qualité du sommeil et bien sûr l'installation progressive des complications cardiovasculaire.
D'accord. Alors, avant de parler de ces complications, professeur Bennis, j'aimerais revenir sur les facteurs de risque et les causes, surtout, puisque c'est une question qui revient très, très souvent.
Alors, les facteurs de risque les plus importants sont le surpoids, l'obésité. Hein. Ce sont les personnes qui ont un indice de masse corporelle plus de 35 kg par mètre carré, qui ont une obésité surtout abdominale, qui ont de l'hypertension. Les hommes essentiellement, et aussi les patients qui ont de l'hypertension artérielle. Et il y a un autre facteur qui est les patients qui ont un cou assez large, qui ont un tour de cou de plus de 40 cm. Donc ce sont un peu les tabagiques aussi, on peut trouver donc ces facteurs de risque. Les ronfleurs en particulier, les ronfleurs qui ronflent énormément la nuit, voilà un peu quelques facteurs qui vont avoir un impact sur la sévérité. Plus on ronfle, plus on apnique, plus on a de l'hypertension, un indice de masse corporelle plus de 30, un cou large, les hommes, ce sont des facteurs de risque de cet syndrome d'apnée du sommeil.
Je parlais des enfants qui ne seraient pas épargnés. Est-ce que vous le confirmez, professeur Bennis?
Je le confirme. Les enfants, en particulier les enfants obèses, et on commence à en voir de plus en plus, les patients qui ont eu une obésité un peu précoce, à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, où c'est un âge où le poids va changer énormément, et les enfants obèses, qui sont nés de parents obèses, les enfants ronfleurs, les patients, les enfants diabétiques vont être exposés au syndrome d'apnée du sommeil, ce qui va les exposer à des risques cardiovasculaires précoces, en particulier à l'hypertension artérielle et aux troubles du rythme cardiaque, parce que le syndrome d'apnée du sommeil va créer, bien sûr, ces épisodes d'hypoxie, de manque d'oxygène. Il va y avoir des occlusions qui vont être le fait d'un relâchement des muscles de la gorge et de la langue durant le sommeil, ce qui va bloquer le passage de l'air et empêcher la respiration. Et ça peut être un facteur aussi de troubles de développement physique, psychologique et cardiovasculaire.
D'accord. Alors comment posez-vous le diagnostic Professeur Benis.
Donc, on a un certain nombre de marqueurs, de scores, dont parmi les plus utilisés, la méthode StopBank, et qui va où y avoir chaque S dans StopBank, il va y avoir des suffixes qui vont correspondre à quelque chose. S, c'est renflement important, T, asthénie ou somnolence diurne, O, c'est apnée du sommeil, P, c'est hypertension, B, c'est indice de masse corporelle qui peut être plus de 30 ou moins de 30 kg par mètre carré, N comme tour du cou plus de 40 cm et sexe masculin. Donc vous voyez un peu, c'est un ensemble d'éléments qui vont permettre donc d'orienter vers une exploration approfondie, à savoir quand on ronfle de façon importante, quand on se réveille fatigué et on n'a pas un sommeil réparateur, quand on est apnéique durant le sommeil, quand on a de l'hypertension, quand on est obèse, comme j'ai dit, avec un tour de cou plus de 40 cm et on est de sexe masculin, donc à ce moment-là, on va faire une exploration du sommeil. Cette exploration du sommeil va nous permettre d'avoir le nombre d'apnées par heure du sommeil. Lorsqu'on est entre 10 et 15 apnées par heure, on est en syndrome léger. Lorsqu'on est entre 15 et 30 apnées, c'est-à-dire A, c'est privatif, et pnée, c'est respiration par heure, donc c'est syndrome modéré. Et lorsqu'on a plus de 30 apnées par heure, on a un syndrome sévère, et à ce moment-là, ça nécessite une prise en charge particulière.
Alors justement, on y arrive. Cette prise en charge, comment ça se passe, professeur Ahmed Mniz? Je rappelle que vous êtes cardiologue.
Alors, à ce moment-là, on va bien sûr s'attaquer à un certain nombre de facteurs qui sont importants. Le tabac, l'arrêt des hypnotiques, des anxiolytiques, de l'alcool, qui sont des facteurs aggravants qui favorisent le syndrome d'apnée du sommeil. On va donc recommander la pratique d'une activité physique régulière, d'une bonne hygiène de vie, l'hygiène du sommeil. On va essayer de dormir 8 heures fixe par jour. Et puis, pour les traitements spécifiques, on a généralement deux traitements spécifiques, soit la pression positive continue par voie nasale, qui va permettre de maintenir les voies aériennes ouvertes, et ce dispositif de ventilation va être porté la nuit, qui est composé d'un masque nasal ou narinaire, qui va être relié à une machine, qui va émettre de l'air en continu et donc va empêcher ces périodes d'hypoxie qui vont être délétères pour le cœur. Et on a aujourd'hui des appareils qui sont plus en plus sophistiqués, qui sont plus en plus miniaturisés. Et comme avancé, ça va être connecté à des appareils de télétransmission ou de télésuivi du traitement. Et puis, on a des orthèses, des appareils mandibulaires. C'est un dispositif qui va être porté dans la bouche par le patient, qui va permettre de favoriser l'ouverture des voies aériennes. Et il ne peut être réalisé, bien sûr, qu'après un bilan stomatologique complet, une vérification de l'état des dents et des articulations temporomandibulaires. Et donc, ces orthèses, ces dispositifs seront proposés en deuxième intention. Donc, on a d'abord des règles qui sont extrêmement importantes, simples. C'est la modification du style de vie, lutter contre le tabac, le surpoids, l'alcool, l'activité physique, une alimentation saine et bien dormir. Deuxièmement, on va proposer une pression positive continue par voie nasale. Et quand ça échoue, à ce moment-là, on va aller vers des choses un peu plus sophistiquées, un peu plus pointues, comme l'orthèse d'avancée mandibulaire.
Vous parliez des séquelles, des conséquences. Quels seraient les plus gros risques, j'allais dire, si ce n'est pas très à temps?
Alors, l'hypertension artérielle, parce que c'est une hypertension qui va survenir la nuit, et ça peut être ce qu'on appelle une hypertension masquée, c'est-à-dire une hypertension non diagnostiquée.
D'accord.
Et à partir de là, il faut y penser, en particulier lorsqu'il y a une atteinte d'organes cibles. Alors, pourquoi on a de l'hypertension? Parce que ça va coïncider avec un dérèglement système de régulation de la pression artérielle, en particulier du système sympathique qui va être overstimulé, qui va stimuler de façon importante. Il va y avoir des altérations du système endocrine, ce qui va provoquer de l'hypertension. Et dans la majorité des cas, cette hypertension n'est pas diagnostiquée, c'est pour ça. Et ça peut expliquer des hypertensions non contrôlées et non traitées. Donc il faudrait absolument chercher, quand il y a un certain nombre d'apnées du sommeil, cette hypertension masquée. Généralement, on fait une mesure de tension des 24 heures. Deuxièmement, c'est la succession de ces périodes de sommeil et de micro-éveil vont favoriser des troubles du rythme cardiaque, en particulier des ralentissements du cœur, une bradycardie, ou des accélérations du cœur. Et ça peut favoriser aussi la dilatation, parce qu'il y a une suppression thoracique, donc on peut avoir de l'hypertension au niveau des artères pulmonaires, ce qui peut dilater les cavités du cœur droit et de l'insuffisance cardiaque qui peut s'installer. Ailleurs, on peut avoir aussi des troubles du rythme cardiaque, en particulier le trouble du rythme le plus fréquent à partir de la cinquantaine, c'est l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Le syndrome d'apnée du sommeil va favoriser l'installation de la fibrillation auriculaire et ça peut expliquer aussi les récidives de la fibrillation auriculaire. C'est pour ça qu'il faut traiter, l'apnée du sommeil quand on sait que la fibrillation auriculaire est un facteur qui peut être qui peut favoriser les accidents vasculaires cérébraux. Et puis, troisième chose, c'est que le fait de manquer d'oxygène par ce syndrome d'apnée du sommeil, ça va favoriser la formation de caillots ou ça va resserrer les artères du cœur. Donc, on peut avoir une vasoconstriction du cœur, ce qui va provoquer une rupture des plaques de graisse dans le cœur et favoriser la formation de caillots et donc d'infarctus du myocarde, ce qui peut donner par la suite de l'insuffisance cardiaque, justement par ces phénomènes d'hyperpression intrathoracique qui vont créer les apnées. Donc c'est un syndrome qui est malheureusement dans 80% qui n'est pas diagnostiqué. Il faudrait faire attention parce que 80% des personnes qui en souffrent ne sont ni diagnostiquées ni traitées et donc c'est extrêmement important de rappeler ce que c'est l'apnée du sommeil et ses conséquences, sa gravité. Donc c'est pour ça qu'il faut le diagnostiquer, le traiter et le prendre en charge, parce que le fait de le prendre en charge va améliorer l'ensemble de ses conséquences. Quand on va traiter de façon correcte un certain nombre d'apnées du sommeil, on va contrôler la tension artérielle, on va éviter les troubles du rythme cardiaque et on va éviter les obstructions des artères coronaires.
Peut-on prévenir l'apnée du sommeil, professeur Muniz?
Absolument, bien sûr. L'obésité, c'est le facteur de risque majeur du syndrome d'apnée du sommeil. Donc, il faut lutter contre l'obésité, ce qui est extrêmement important. Il faut faire de l'exercice physique. Il faut ne pas prendre de poids. Il faut essayer d'avoir le même poids à 20 ans, 40 ans, 60 ans. Il faut considérer que chaque prise de poids est un danger pour la santé parce que ça favorise le syndrome d'apnée du sommeil, ça favorise la résistance à l'insuline, le diabète et les complications cardiovasculaires. Il faut bien sûr, si on a une hypertension, il faut la contrôler. Il faut bien sûr arrêter le tabac qui est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et qui est un des facteurs qui favorise aussi le syndrome d'apnée du sommeil. Il faudrait avoir un sommeil qui est suffisant, 8 heures par nuit à des horaires fixes. Il faudrait bien sûr lutter contre, éviter au maximum de prendre les hypnotiques, les anxiolytiques et bien sûr avoir une bonne hygiène de vie et ce qui va permettre bien sûr d'avoir, d'éviter justement, et l'alcool aussi qui est un facteur extrêmement important qui donne le syndrome d'apnée du sommeil. D'ailleurs, on trouve généralement le même type de personnes qui sont en surpoids, qui fument, qui prennent de l'alcool et qui sont obèses et qui ont de l'hypertension et de la fibrillation auriculaire.
Professeur Ahmed Muniz, je rappelle que vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. Heureuse année à vous. Et c'est un entretien réécoutable sur notre site media.com.